Bonjour, bienvenue sur le réseau FM Plus 103.1 à Nîmes et sur le 91 FM à Montpellier. Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h, retrouvez Itinéraire Santé, une émission pour se sentir bien dans son corps et avec soi-même, à écouter aussi en podcast sur fmplus.org. En ce mois de novembre, nous nous intéressons aux effets de traitements non médicamenteux sur la bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO, une maladie respiratoire chronique extrêmement fréquente. Une première émission sur ce sujet a eu lieu le 5, vous pouvez l'écouter sur notre site. Et en ce mercredi 19, journée mondiale justement consacrée à la BPCO, j'accueille de nouveau le docteur Gouzy, pneumologue et physiologiste travaillant au CHRU de Montpellier et faisant de la recherche sur les maladies respiratoires chroniques. Bonjour docteur.
Bonjour Annick.
Alors, cette émission tombe vraiment pile poil avec cette journée mondiale. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer ?
Comme chaque année, il est prévu généralement une première rencontre avec tous les soignants, toutes les personnes impliquées à la faculté de médecine, mais ça c'était hier soir. Et aujourd'hui, un certain nombre de points de dépistage vont vous permettre d'accueillir les gens, soit au CHRU de Montpellier, soit en ville. Je crois qu'il y avait un stand qui est prévu sur la place de la Comédie. Enfin, en tout cas, vous aurez toute l'information nécessaire sur le net en tapant simplement Journée mondiale de la BPCO. Vous êtes tous les bienvenus pour tester votre souffle.
Oui, je crois que c'est vraiment l'occasion là. Oui. Alors, est-ce que vous voulez nous rappeler en quelques mots les symptômes de cette BPCO ?
Oui, alors la BPCO, c'est une maladie qui se développe très progressivement, insidieusement, en réaction à l'exposition à différents irritants bronchiques. Alors en France, c'est essentiellement le tabagisme. Et elle va progressivement être source de différents symptômes, comme de la toux, de l'expectoration, des bronchites à répétition, et surtout, un essoufflement qui apparaît de manière un peu sournoise et très progressive, et qui d'ailleurs fait que la maladie est malheureusement longtemps négligée tant qu'on ne fait pas un test de dépistage du souffle.
Oui. Alors, nous avons commencé à l'évoquer lors de notre première émission. Vous coordonnez un protocole de recherche biomédicale justement sur ces maladies respiratoires.
Exactement. Cette maladie se caractérise, comme on le disait, par une atteinte pulmonaire qui est directement liée à une inhalation d'irritants bronchiques. Mais on sait depuis quelques années, c'est vraiment le scoop, on va dire, de ces dernières années, que cette maladie est systématiquement associée à des atteintes d'autres organes. Par des mécanismes qui sont encore assez discutés, car assez multiples et complexes. Mais on sait que les patients qui ont une BPCO vont avoir soit une hypertension artérielle, soit des problèmes d'ostéoporose, soit des problèmes de surpoids, soit de l'anxiété, soit des problèmes de dépression et parfois des troubles du sommeil. En tout cas, il existe très fréquemment une atteinte musculaire. Une atteinte musculaire, c'est pas simplement les muscles respiratoires, c'est surtout les muscles qui permettent la vie de tous les jours, hein, la locomotion, se déplacer, simplement aller faire ses courses. Hein. Et les patients qui ont ce type de maladie perdent en force, en endurance, en masse musculaire, et finalement se retrouvent plus malades qu'ils ne devraient l'être, simplement à cause de leurs problèmes pulmonaires. Et donc pour cette atteinte musculaire, on a des possibilités de traitement. Évidemment, il faut le carburant, il faut une nutrition adaptée, mais aussi il faut faire travailler le muscle. Pourquoi ? Parce que le muscle, il a une capacité naturelle de régénération. C'est une propriété extrêmement intéressante que n'a pas d'ailleurs le poumon, mais le muscle, quand on le fait travailler, régénère, c'est-à-dire qu'il est capable de refaire des fibres musculaires. Il est capable également de faire repousser les tout petits vaisseaux qui amènent l'oxygène aux fibres musculaires, ce qu'on appelle des capillaires. Donc c'est la raison pour laquelle depuis, allez, on va dire 15-20 ans maintenant, nous proposons des programmes qui sont complets, qui vont associer différentes thérapies non médicamenteuses, par exemple activité physique, prise en charge nutritionnelle. Ça se regroupe sous l'intitulé général de réhabilitation respiratoire. C'est-à-dire que grâce à ces programmes, on va pouvoir conférer au patient qui petit à petit détériore sa qualité de vie, on va pouvoir lui redonner de nouvelles habiletés, de nouvelles capacités à faire ce qu'il ne pouvait plus faire auparavant grâce à ces traitements-là. Et notamment donc via l'entraînement physique qui permet d'améliorer la fonction musculaire, la capacité d'un patient à faire un exercice et donc sa qualité de vie. Et on sait que ça marche, simplement, on ne sait pas encore complètement comment ça marche. Et si ça marche comme ça devrait marcher. C'est-à-dire que dans une étude que nous avons publiée en 2013, on s'est aperçu que quand on compare les effets musculaires d'un programme d'entraînement, eh bien, les patients BPCO améliorent leur fonction musculaire, mais de manière un peu moins importante que ce que l'on observe chez des sujets sains, de même âge, de même caractéristiques, sauf qu'ils n'ont pas la maladie respiratoire. Donc, qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est un problème d'intensité, de durée de l'entraînement physique? Ou alors, est-ce que c'est le fait, justement, de cette maladie qui va bloquer les mécanismes de régénération du muscle? C'est ce que nous allons chercher à savoir à l'aide de cette étude et ce qui nous permettra, à terme, d'aller encore plus loin dans les effets du réentraînement à l'effort, hein, de l'entraînement physique que nous allons proposer à nos patients. En tout cas, c'est notre objectif.
D'accord. Voilà. Alors, donc, comme nous le disions la dernière fois, vous êtes en recherche de volontaires. Quelle va être la méthodologie?
Alors, la méthodologie, elle est extrêmement précise, extrêmement rigoureuse. C'est une étude de recherche. Nous allons proposer donc à nos patients un programme de, on appelle ça réentraînement à l'effort, c'est-à-dire d'entraînement physique, adapté à leur capacité, hein, c'est-à-dire que on ne va pas les faire travailler comme des marathoniens, hein, bien sûr, mais un entraînement adapté pendant au total 10 semaines. 10 semaines avec différents types d'exercices, en endurance, en force, dans différents endroits, en intérieur, en extérieur, en piscine, j'en passe, c'est les meilleurs. Avant, au milieu et à la fin de ces 10 semaines d'entraînement physique, nous ferons différents tests, des tests généraux, hein, pour évaluer la capacité physique des patients. On mesurera leur qualité de vie, on mesurera également leur fonction musculaire. Et puis également, on fera un petit prélèvement au niveau du muscle. Ça se fait tout à fait facilement dans notre service. Et ça nous permettra, à ce moment-là, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur même du muscle, hein, puisque ce prélèvement fera l'objet d'analyses au laboratoire INSERM, avec, unité dans laquelle nous travaillons tous. Voilà en gros le principe. Évidemment, on comparera ce qui se passe chez les patients à ce qui se passe chez des sujets sains, nous avons déjà fait cette étude chez les sujets sains cette année. Voilà, nous cherchons maintenant les patients.
Oui, alors donc, cette étude s'adresse aux hommes âgés entre 60 et 77 ans, aux femmes entre 55 et 78 ans. Ces personnes à quel stade de la maladie pour que justement les tests puissent être
contributifs? Oui. L'étude s'adresse à des patients, quel que soit leur degré de sévérité de la maladie. Effectivement, quand on prendra contact, nous referons les différents tests et nous essayons en fait de mettre en rapport un sujet sain et un patient de même caractéristique, hein, c'est-à-dire en gros poitaillage sexe, pour faire simple. Et donc, en gros, c'est dans un second temps, hein, si vous voulez, qu'on vérifiera l'ensemble des critères d'inclusion beaucoup plus détaillés pour savoir si on peut proposer ce type d'étude, qui est quand même une sacrée aventure, bénéfique, hein, pour les patients, mais à bon escient. Voilà.
Alors, je donne de suite quelques informations pratiques. Vous pouvez téléphoner au 04 67 33 59 10 ou un site internet b-ayoub@chu-montpellier.fr.
Exactement. Vous contacterez à ce moment-là notre attaché de recherche qui s'occupe de vous donner les compléments d'information nécessaires et puis qui, en complément, vous posera quelques questions qui nous permettront un petit peu de cibler au mieux les demandes et de vous proposer éventuellement un rendez-vous pour venir prendre contact avec nous. Voilà.
Une petite respiration musicale sur le réseau FM+. Itinéraire Santé, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h sur le réseau FM+, et écoutable en podcast sur fmplus.org. Donc aujourd'hui, le docteur Gouzy nous explique tout sur cette étude qu'il coordonne donc au CHRU de Montpellier, une étude sur les maladies respiratoires chroniques basée sur, on va dire,
la réhabilitation respiratoire,
voilà,
et le réentraînement à l'effort.
Voilà.
Effectivement, c'est des notions qui sont un peu neuves dans le domaine, hein. Classiquement, le médecin prescrit des médicaments, des traitements inhalés, et surtout a l'habitude de faire la leçon aux patients sur son tabagisme. Là, c'est une démarche qui est complètement différente, basée sur des traitements non médicamenteux, un changement de mode de vie, hein, qu'on souhaite proposer aux patients. Et donc, l'étude que nous menons actuellement cherche à mieux comprendre, mieux identifier les mécanismes d'amélioration des patients via ce type de traitement non médicamenteux comme l'entraînement physique. Donc c'est une étude qui a déjà démarré. Nous avons déjà pu faire participer des sujets sains. Nous recherchons désormais des patients atteints de BPCE ou emphysème qui vont donc pouvoir participer à un programme de réhabilitation respiratoire, c'est-à-dire un programme complet au cours duquel il y aura bien entendu du réentraînement à l'effort, c'est-à-dire un programme d'activité physique extrêmement complet, on pourra y revenir, mais également un travail, on appelle ça de l'éducation thérapeutique, un travail pour essayer de comprendre un peu mieux les choses, pour essayer de changer ses habitudes de santé. Par exemple, améliorer son alimentation, par exemple, essayer d'aller vers un sevrage tabagique, par exemple, comment intégrer une activité physique dans son quotidien. En fait, la réhabilitation respiratoire, c'est un traitement qui devrait durer aussi longtemps qu'existe la maladie. Donc effectivement, on propose des programmes au départ qui sont de courte durée, mais qui sont quand même...
Il faut quand même être disponible.
Ouais. Mais c'est en quelque sorte quelque chose qui permet aux patients de démarrer. Ça n'est qu'un début, oui, en fait. Hein. Donc, dans le cadre de notre étude, nous proposons un programme qui va durer au total, on va dire, 3 mois avec les différents tests qui sont prévus. Une étude qui permettra à chacun des patients de voir les progrès qui sont faits sur le plan physique et qui permettrait aux patients de petit à petit de faire évoluer un petit peu son mode de vie pour que sa vie soit plus adaptée à sa maladie et faire moins de problèmes ou de complications ou de pépins par la suite. Voilà.
Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas à Montpellier ou qui ne sont pas encore atteints de BPCO, mais qui sont quand même fumeurs et qui commencent à avoir quelques essoufflements, etc. Quel conseil pratique pourriez-vous leur donner pour diminuer ou ralentir les symptômes de la BPCO, quoi.
Voilà, donc, y a plusieurs choses qui peuvent être possibles, qu'il est possible de faire. Alors, en numéro 1, évidemment, on ne pourra pas s'affranchir du sevrage tabagique. C'est un vrai boulot, hein, à temps plein. Hein.
C'est-à-dire que vous avez des trucs pour arrêter de fumer.
Malheureusement, il n'y a pas de méthode miracle. Simplement, petit à petit, on a des propositions thérapeutiques qui font qu'on est de mieux en mieux, on arrive à avoir de plus en plus de résultats.
Donc
la première chose, des exemples, y a des traitements déjà pharmacologiques qui permettent de diminuer ou les sensations de manque ou le besoin, puisque le tabac reste quand même une vraie addiction et probablement une des plus dures sur le plan de la dépendance à la fois physique et comportementale. Donc on peut travailler sur cet aspect-là avec des aides médicamenteuses. On peut travailler également sur toute une série d'interventions associées au niveau psychologique, au niveau activité physique, au niveau nutritionnel, qui vont faire que le sevrage pourra être beaucoup plus simple et se dérouler dans de meilleures conditions. C'est évidemment quelque chose qui est complexe. Dans mon expérience, je ne suis pas spécifiquement tabacologue, mais dans mon expérience, effectivement, c'est souvent des réussites qui sont temporaires, puis on revient, puis des phases d'échec, et ça oscille assez fréquemment. Mais il faut toujours rester positif, parce que les patients qui ont déjà eu des tentatives de sevrage ont plus de chances de réussir par la suite. Et puis, on peut se faire aider. Donc le tout, c'est au départ de prendre sa décision, évidemment, de démarrer que quand on a la motivation pour, et après, ne pas hésiter à se faire aider. Il y a plein d'outils qui permettent de renforcer les motivations, de s'affranchir de cette dépendance physique ou comportementale, et qui permettent à un certain nombre de patients de s'en sortir. Ça, c'est pour le premier aspect. Et les autres traitements qu'on peut proposer, c'est l'activité physique. Donc, on a expliqué pour les raisons pour lesquelles l'activité physique est bénéfique. Ça améliore la fonction musculaire. Les patients derrière sont moins essoufflés à l'effort et ont une meilleure qualité de vie.
Exemple en activité physique.
En activité physique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire déjà ce qui vous plaît. C'est-à-dire qu'il faut prendre du plaisir à faire de l'activité physique. Et là, déjà, c'est au départ un peu compliqué, parce que quand vous n'en avez plus fait pendant des années et des années, et que dès que vous bougez, vous êtes essoufflé, évidemment, c'est pas un plaisir. Donc c'est la raison pour laquelle il faut pas hésiter à, là encore, à se faire aider, à en parler à son médecin, éventuellement pneumologue, qui pourra prescrire certains tests, comme les tests d'effort, qui permettront d'identifier très précisément à quelle intensité, où, comment, pourquoi, comment s'y prendre. Hein. Il y a aussi plein de spécialistes qui pourront vous aider, des kinésithérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée, qui travaillent soit en cabinet, soit dans des réseaux de santé, par exemple le réseau R+R à Montpellier, Soit dans des établissements plus spécialisés, ce qui peut être bien pour initier quelque chose. L'objectif, c'est d'avoir une activité physique qui soit intégrée dans son quotidien, régulière.
Et oui.
Alors, au départ, on va dire une demi-heure de marche par jour, c'est quelque chose qui a déjà fait la preuve de son efficacité. Hein. Mais ça serait apprend. Hein. Ça serait apprend, il faut se faire aider.
Oui. Alors, on va faire une petite respiration musicale et puis vous allez continuer à nous donner des conseils. Hein. N'est-ce pas, docteur ?
Avec plaisir.
Itinéraire santé, Donc, nous intéressons aujourd'hui aux effets de traitements non médicamenteux sur la bronchopneumopathie chronique obstructive en compagnie du docteur Gouzy. Donc, nous avons parlé de l'arrêt du tabac, du sport. Est-ce que au niveau alimentation, il y a des choses, vous pouvez nous donner des conseils?
Oui, effectivement, c'est un objet à la fois de travaux de recherche. On essaie d'améliorer encore ce qu'on peut proposer comme apport alimentaire aux patients. Il est clair que les patients, du fait de différents mécanismes, notamment une réaction d'inflammation au niveau pulmonaire et au niveau général, qui est dû aux irritants bronchiques, vont avoir une perte, une dépense énergétique finalement qui va être plus accrue. Donc ça nécessite d'avoir des apports alimentaires qui soient adaptés et probablement adaptés
Voilà,
à leur
supérieur, on
maladie,
va dire, à une
éventuellement
alimentation
supérieure.
normale.
Voilà. Donc l'objectif, c'est surtout que l'alimentation soit pas carencée. Il faut qu'il y ait des protéines également, sans non plus faire des régimes hyper protidiques. De manière générale, en santé, on ne parle plus de régime. Hein. Les régimes, c'est une alimentation qui est extrêmement restrictive et qui, si elle n'est pas contrôlée, surveillée médicalement, peut aboutir à des catastrophes. Hein. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'apporter le maximum de bonnes choses. Hein. Un nombre de repas par jour qui soit raisonnable. C'est parfois pas évident quand on est un peu essoufflé et que se préparer la cuisine et faire les courses. Hein. Mais en mangeant de tout, en n'oubliant pas notamment les protéines et en ayant des apports qui soient suffisants. On a beaucoup de patients qui sont relativement dénutris ou relativement dénutris par rapport à leurs besoins. Hein. Et puis, il y a pas mal de choses aussi qu'on essaie de développer sur les micronutriments, vitamines, oligoéléments. Qui permettrait potentiellement d'améliorer aussi la situation, mais ça fait encore pour le moment l'objet de travaux de recherche. Mais en gros, il faut avoir le message, c'est que il faut une alimentation qui soit adaptée et surtout pas carencée chez les patients.
Oui, mais alors par exemple, j'en reviens aux fumeurs. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller de manger en particulier pour compenser justement toute cette énergie brûlée à cause de la cigarette, on va dire.
À cause de la maladie, on va dire
Et à cause de la
essentiellement,
maladie, oui.
mais effectivement, c'est une alimentation qui va favoriser des apports en fruits qui sont pleins de vitamines et d'oligoéléments qui vont éviter les sucres rapides, les graisses. On sait que ces patients sont soit très dénutris, soit développent au contraire du surpoids, voire de l'obésité. Hein. Et donc c'est, on va dire, dans l'immédiat, des règles un petit peu de bon sens. Alimentation variée, favorisant fruits et légumes et évitant sucre rapide, graisse et puis aussi tous les autres toxiques, hein, boissons alcoolisées, etc. Voilà.
Très bien, docteur Gouzy, un grand, grand merci. L'émission se termine. Donc, pour les personnes intéressées, vous pouvez vous adresser donc au 04 67 33 59 10 intéressés pour faire
pour l'étude.
cette, voilà, pour faire
Eh bien,
cette
cette
étude.
étude.
Hein, voilà. Donc, le téléphone, je l'ai donné. Le mail, B comme bébé, tiré Ayoub, AYOUB@CHU Montpellier.fr. Donc, les hommes doivent être âgés de 60 à 77 ans, les femmes de 55 à 78, tous être atteints de BPCO. La durée de cette étude est de 3 mois, donc il faut vraiment être disponible et habiter Montpellier. Voilà pour le principal, docteur.
Oui, vous pourrez retrouver également cette annonce pour la recherche de volontaires sur le site internet du CHRU de Montpellier. Tout est détaillé avec ses coordonnées et donc nous vous répondrons rapidement.
Très bien, un grand merci.
Merci à vous, Annie.
Auditeurs, merci à vous. Rendez-vous pour une prochaine thématique d'itinéraire santé, décembre, donc le mois prochain, le premier, le troisième mercredi du mois de décembre à 9h. Les émissions sont écoutables en podcast sur fmplus.org. Merci à Stéphane qui était à la technique. Au revoir à tous. Au revoir.